Cette inquiétude, elle se manifeste actuellement dans la mesure où l'État islamique recule sur le plan militaire tant en Libye qu'en Irak et en Syrie. Et à partir de là, se pose effectivement la question de savoir comment les djihadistes tunisiens vont réagir à cet affaiblissement militaire et politique avec la perspective d'un retour sur le territoire national. Et une telle perspective pose la question de la capacité sécuritaire de la Tunisie pour faire face à un tel flux, dans la mesure où les djihadistes tunisiens représentent le contingent le plus important parmi les djihadistes étrangers présents sur les territoires libyens, syriens et irakiens.
Alors, une stratégie de lutte contre l'extrémisme a été mise en place en 2016. Est-ce que cette stratégie est précise ou elle demeure encore assez floue ?
Elle reste relativement floue parce qu'il y a aussi une dimension politique autour de cet enjeu. Or, sur le plan politique, on ne peut pas dire qu'il y a une seule ligne, un leadership qui s'impose clairement en Tunisie, même si vous avez un président démocratiquement élu et un gouvernement nommé par ce même président. Je veux dire par là que derrière la figure présidentielle de Béjir Kaïd Essebsi, l'actuel président tunisien, vous avez en vérité une forme de dualisme ou diarchie entre d'un côté la présidence et son parti, Nida Tounes, et de l'autre les islamistes modérés de Ennahda, incarnés par Rachid al-Ghannouchi. Or, ces islamistes qui, d'une certaine manière, co-gèrent le pays actuellement, défendent une position qui peut apparaître comme une logique de pardon, de réconciliation nationale, qui pourrait amener à une proposition d'amnistie. D'une certaine manière. Donc c'est par rapport à cette perspective-là que la tension politique monte actuellement en Tunisie, sachant que effectivement parmi la société civile, il y a une vraie crainte qui se manifeste. Du côté de l'appareil sécuritaire lui-même, vous avez une mobilisation, une prise de parole par rapport précisément à la capacité du pays à faire face à des djihadistes qui ont une expérience maintenant de la guerre et avec le risque d'importer cette guerre et de mettre en pratique leur propre savoir-faire, entre guillemets. Et de l'autre, encore une fois, politiquement, une position affichée du côté des islamistes d'Ennahda qui n'est pas rejetée en bloc par parti politique et le président de la République, il l'incarne.
Est-ce que c'est pour ces raisons que la conférence nationale contre le terrorisme qui était prévue en 2015 a été sans cesse repoussée ?
Exactement, c'est vraiment ce problème d'ordre politique. Il n'y a pas de ligne politique claire et donc on ne sait pas exactement quelle règle juridique appliquer clairement aux djihadistes tunisiens. Cela s'explique notamment par le contexte post-révolutionnaire. Je veux dire qu'il faut rappeler que les islamistes de Narda avaient déjà tenté, une fois au pouvoir, en 2012, de jouer la carte de la main tendue en direction des salafistes. Cette stratégie n'a pas fonctionné. Les salafistes tunisiens n'ont pas voulu jouer le jeu démocratique et donc ont préféré jouer l'option du rapport de force et de la violence politique, y compris sur le territoire tunisien. Certains ont même opté pour le djihad. Aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des islamistes tunisiens, la majorité de la société civile, s'explique précisément par cet échec et par le sentiment suivant lequel Ennahda, lorsqu'il était au pouvoir, n'a pas su jouer la carte de la sécurité, garantir la sécurité et mener finalement une lutte contre ces salafistes. Depuis, les islamistes d'Ennahda ont essayé de prendre acte de cet échec en qualifiant notamment les actes qui ont été commis en Tunisie de terroristes. Or, aujourd'hui, on voit se dessiner un nouveau retournement, d'une certaine manière, à travers ce discours d'ouverture et de pardon, ouvrant la perspective, encore une fois, d'une amnistie vis-à-vis des djihadistes tunisiens.
Et au niveau des moyens sécuritaires, est-ce que la Tunisie a les capacités de faire face au retour de Tunisiens partis combattre aux côtés de groupes terroristes?
C'est la question qui est avancée par certaines forces de sécurité qui disent qu'actuellement, ils n'ont pas les moyens de mener d'une certaine manière une guerre à l'intérieur même du territoire national au regard de la dimension quantitative. Et en même temps, il faut rappeler que près de 100 000 personnes, 100 000 salafistes, étaient rassemblés en 2012 lors d'une manifestation à Kairouan pour justement montrer la capacité de mobilisation des salafistes en Tunisie. Donc il y a là un rapport de force qui pose question pour les forces de sécurité. Et dans le même temps, cette menace-là ne peut pas être gérée simplement sous l'angle sécuritaire et militaire et policier. Vous avez, pour une démocratie naissante comme la Tunisie, l'enjeu de l'état de droit, c'est-à-dire le respect des règles établies par le droit pénal tunisien et la manière de à la fois de le respecter et de le faire appliquer. Cette séquence-là met à l'épreuve la transition démocratique elle-même.
Et est-ce que la Tunisie fait face à cette menace seule ou bien il y a une collaboration importante avec d'autres pays ?
Les Tunisiens ont souvent l'impression d'être relativement isolés. C'est un sentiment qu'ils ont, voire abandonné, c'est un sentiment qu'ils ont exprimé après la révolution. Puis progressivement, dans la mesure où la menace n'est pas propre à la Tunisie, qu'elle a pris une dimension à la fois régionale et même internationale, une coopération plus poussée s'est établie, alors en particulier avec le voisin algérien, en matière de renseignement et en matière militaire. Sauf que la même coopération ne se vérifie pas du côté libyen, dans la mesure où précisément il n'y a pas de pouvoir central qui permette d'établir une coopération viable et efficace. Et ça, les autorités tunisiennes s'en plaignent, ou en tout cas soulignent cette défaillance-là qui constitue une faiblesse dans le système sécuritaire tunisien. À l'échelle internationale, les États-Unis ont noué une relation spéciale, en tous les cas beaucoup plus étroite historiquement, avec la Tunisie, et qui se traduit notamment par un soutien matériel et un soutien en matière de coopération, de renseignement.